When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Chasseur me tuera, lapin intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 18e épisode, je discute avec Charlotte. Charlotte est la maman de 4 enfants et est sur le point de donner naissance à son 5e. Elle nous raconte comment cette famille nombreuse s'est construite petit à petit. Dans cet épisode, on parle d'accouchement par déclenchement, de l'organisation quotidienne dans une famille nombreuse et de l'arrivée d'un petit dernier dans une grande fratrie. Bonne écoute!
Bonjour Charlotte, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour ce nouvel épisode.
Avec plaisir Shane.
Alors, à quel âge tu as eu ton premier enfant ?
Alors, j'ai eu mon premier enfant, comme on dit sur le tard, enfin moi je pense sur le tard, à 30 ans.
C'était une volonté de patienter ?
Du tout. C'est juste que j'ai mis un petit peu de temps à trouver le père et le mari idéal. Hein, et donc voilà, il a fallu que j'attende jusqu'à mes 30 ans.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Ah, écoute, elle s'est plutôt bien passée. Alors évidemment, avec tous les stress qu'engendre une première grossesse, j'étais alitée, alors à domicile, hein, pas du tout à l'hôpital. De toute façon, j'avais pas d'autres enfants, donc j'avais tout le loisir de me reposer. J'avais le col qui était un petit peu ouvert, vers 4 ou 5 mois. Donc pour moi, je me disais, si je me levais, j'avais peur de faire tomber le bébé. Donc je restais sage comme une image et en fait... Tout s'est très très bien passé, elle était jusqu'au bout.
Et alors tu attends aujourd'hui ton 5e enfant.
Tout à fait.
Le terme est proche d'ailleurs.
Très.
Ce sera ta dernière grossesse ?
Oui.
Oui ?
Oui Jean-Pierre. Là c'est sûr. Là je vais tout mettre en œuvre pour... Ouais. Là clairement, je pense que au niveau de mon corps, je commence à être épuisée. J'ai, voilà, comme... je vais avoir 39 ans. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. La maison elle est pleine. Les enfants, voilà, ils ont besoin d'une mère quand même. Pour eux, c'est bon, c'est terminé.
Et alors, donc, tu as 3 filles et 1 garçon.
Oui.
Pour le moment, on attend, c'est une surprise, je
surprise,
crois.
Surprise, exactement.
Et est-ce que tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse ou ça s'est fait au fil des grossesses ?
Les deux. En fait, je pense que j'ai toujours admiré les familles nombreuses sans vouloir forcément, moi, en avoir une. Après, faut savoir que famille nombreuse, c'est pas le même terme. Voilà, quelqu'un qui va avoir 3 enfants, il va dire j'ai une famille nombreuse. Il y en a qui vont en avoir 5, pour eux, 3 enfants, c'est pas du tout nombreux, vous voyez. Et du coup, non, moi, je voulais idéalement 3. Et puis, la 4e est arrivée, voilà, sur une décision commune de papa et maman. Alors qu'on avait dit 3, c'était bon. Mais finalement, voilà. Et puis, le 5e, c'est un peu plus invité seul, on va dire. Donc voilà, donc on est comblés. Mais voilà, ça sera terminé.
Et toi, tu n'es pas issue d'une famille nombreuse ?
On était 3 enfants.
Okay.
Donc, si tu veux, c'était un peu mon schéma familial idéal. Donc, je voulais un peu reproduire ça. J'ai dépassé mes espérances.
Et comment vous l'avez vécu, toi et ton chéri, l'annonce, quand tu as su que tu étais enceinte du 5e ?
Ça a été un peu un choc. C'était tout de suite, c'était on fait quoi ?
Ouais.
Ça n'a pas été, si tu veux, je vois la barre, les sauts de joie, comment je vais lui annoncer. C'était plutôt comment je vais lui annoncer. C'était ça. Moi je sais que j'étais complètement il y a une barre, il n'y a pas de barre, c'est pas possible, enfin bon voilà, sachant qu'évidemment oui c'était possible, mais j'avais peur de tout, j'avais peur de cette nouvelle grossesse, j'avais peur de l'annoncer, j'avais peur de la suite, Et puis, au début, ça a été un petit peu difficile à accepter. Alors, moi, je me suis sentie vite enceinte et vite, tout de suite maman. Mon mari, voilà, il a fallu un peu plus de temps. Et puis, puis maintenant, voilà, c'est... C'est une évidence, quoi. C'est une évidence.
Il y a une semaine, tu partageais sur ton compte Instagram un mauvais souvenir d'un de tes accouchements. Donc, c'était
exactement.
Ton troisième.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'ai été déclenchée parce que j'étais arrivée à dépassement du terme. Et le protocole de l'hôpital dans lequel j'accouche dit qu'à 5 jours dépassement, quand le terme est dépassé de 5 jours, on déclenche. Alors moi, voilà, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, de toute façon, il ne peut pas rester toute sa vie dans mon ventre. S'il ne sort pas, c'est qu'il y a peut-être un souci. Et je sais pertinemment que si on dépasse trop, c'est danger aussi pour le bébé. Donc, il faut le sortir. Donc, j'étais vraiment pas contre l'idée. Même si, voilà, pour moi, je passais un peu à côté de l'accouchement. Le fait de ne pas savoir voilà, quand est-ce qu'on accouche, de découvrir un peu, tu vois, c'est être dans le feu de l'action en disant « Ah, c'est aujourd'hui !» Voilà, ça m'était enlevé et vraiment, j'ai été accouchée sur rendez-vous. Ça m'avait un peu peinée, mais bon. Et là-bas, donc, on me déclenche, on me met un tampon, on m'explique que ça peut très bien, rien ne peut se passer pendant 24 heures.
Un tampon, c'est quoi?
Alors, c'est comme un vrai tampon, quoi, okay. Avec ça s'appelle du propesse, c'est des espèces d'hormones qui te font avoir les contractions, mais qui font pas forcément bouger ton col. C'est ça le problème. Et du coup, ils me mettent dans une salle de pré-accouchement, j'étais avec mon mari, c'était sympa. Et puis, voilà, donc on m'explique que ça peut très bien ne pas marcher. 24 heures après, on t'en remet un. Donc moi, avec mon mari, je dis, oh, tu vas voir que d'ici 24 heures, je vais rien avoir. On va être encore là demain. Enfin, bon, bref.
T'étais sereine.
Ouais, franchement, ouais. Bah oui, parce que tu vas rencontrer ton bébé. Donc, au final, c'est quand même ce qui importe le plus. Et puis là, 20 minutes après, des contractions. Mais alors, mais vraiment de travail, de... C'est déjà où tu n'en peux plus. Et ça a commencé vraiment comme ça. Une contraction. Je ne reprenais plus mon souffle. Donc, il m'avait perfusé. Donc, j'espérais qu'il mette des antidouleurs. Donc, j'ai dit à mon mari, sonne. Et puis là, la sage-femme me dit que c'est trop tôt, que tu vois, le col n'a pas du tout lui travaillé. Donc, je prends sur moi. Et si tu veux, chaque minute, ça te paraît une heure, quoi.
Oui.
Avec la douleur, tu n'as plus cette notion du temps, tu n'as plus du tout ce raisonnement et tu veux juste que ça cesse. Alors au début, tu prends sur toi, tu arrives, tu fais des exercices de respiration, ton mari est là. Et puis à un moment, une heure se passe et puis c'est de pire en pire. Et tu dis, mais je pourrais pas... Enfin, pour moi, le pire n'existe pas. Tu appelles, on te fait comprendre que non, on ne peut rien pour toi. On commence à dire, on va pas vous mettre du space-fond parce que ça va vous faire arrêter les contractions. Toi, tu sais pertinemment que tu es infirmière et que le space-fond ne te fera rien, certainement pas à retirer les contractions. Donc tu dis, ok, donc déjà, je suis pas prise au sérieux.
Ouais.
Voilà. Et c'était tout un enchaînement comme ça où, là, si tu veux, le moral n'est plus là parce que tu sais que tu n'as pas été écoutée, tu ne seras pas écoutée. Et toi, t'es là avec ta douleur, tout seul. Et puis, donc voilà, les contractions, les douleurs, la douleur, je crie, je hurle, bref. Et puis à un moment, je romps la poche des os, on vient me voir. J'avais réclamé la péridurale, hein. On m'a dit que c'était trop tôt. Et puis là, branle-bas de combat, on fait l'échographie, et puis on se rend compte que le bébé, bah, il bradycarde, il va pas bien, il faut le sortir absolument. Et alors ça, figure-toi que c'est mon mari qui me l'a raconté, parce qu'on m'a fait une échographie en salle d'accouchement. Et pour moi, je n'ai jamais été en salle d'accouchement.
Ah oui?
J'ai complètement perdu cette notion. J'avais dit à mon mari, mais comment je suis passée du bloc? Comment ils ont vu qu'il n'avait pas bien le bébé? Quand ils t'ont fait l'échographie. Je lui ai dit, mais quand est-ce qu'ils m'ont fait l'échographie? Et il me disait, mais dans la salle d'accouchement. Je lui ai dit, mais je n'ai jamais été en salle d'accouchement. Et en fait, pourtant, j'ai été consciente tout le temps. Mais si tu veux, la douleur m'a tellement prise que j'ai cette perte de conscience. En fait, j'étais consciente, mais pas là, quoi. La douleur m'avait vraiment accaparée. Et donc, on m'emmène au bloc, en courant, et on me dit, dans le couloir, allez-y, poussez, c'est la dernière chance que vous avez d'accoucher par voie basse. Alors que moi, quand on m'a parlé de césarienne, mais dans ma tête, j'étais tellement soulagée. Je me dis, enfin, on va m'anesthésier, quoi. Oui, enfin, ça y est, ça va arrêter. On m'a mis au bloc. Et bon, bah, évidemment, mon mari ne peut pas rentrer, donc on est séparés. Et là, je vois une armée de gens autour de moi. Et puis, là, on me dit, poussez. Alors moi, je ne comprends pas. Je demande où est l'anesthésiste. Et là, je pense que c'est l'anesthésiste qui me dit... Maintenant, en gros, faut arrêter de penser à vous, faut penser au bébé. Bon, il est en danger, donc je peux comprendre totalement. Eux, ils ont une mission. Mais si tu veux, toi, quand tu souffres et tout ça, tu perçois les choses autrement. Mmh. Et j'étais vraiment pas du tout dans l'échange avec eux. Mais je comprends complètement l'équipe médicale qui avait qu'une mission, c'est sauver mon enfant. Et encore une fois, je peux vraiment pas leur en vouloir pour ça. Et puis là, donc voilà, moi j'ai aucune force pour pousser, enfin j'y arrive pas, je peux plus, je respire plus, enfin si tu veux, je pense même pas à mon enfant, je pense, je veux que ça s'arrête en fait.
Et, oui, t'es plus dans la rencontre.
Non, du tout, non, là je suis un corps sur un brancard et bah, j'attends qu'on fasse quelque chose pour moi en fait, si tu veux, tu vois.
Ça faisait combien de temps, combien d'heures?
Et, voilà, ce qui est entre guillemets horrible, c'est que si tu veux, je suis arrivée à 10h et j'étais au bloc à 13h. Donc en soi, ça a fait 3h. Donc beaucoup me disent « Ah, la chance, t'as accouché rapidement ». Mais c'est 3h vraiment de torture intense. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai eu des accouchements de ma première qui a duré 12 heures en salle de travail. Écoute, je préférais vraiment 24 heures limite avec des contractions comme j'ai eu pour mes autres enfants. Que ce que j'ai vécu en 3h. Et puis voilà, les instruments, la ventouse, pas d'anesthésie évidemment, donc tu sens tout. Il y a la déchirure ou l'épisiotomie, c'est pas encore très net, je sais toujours pas ce qu'ils m'ont fait. Bon, ça à la limite, je l'ai pas senti parce que c'est dans le feu de l'action. Oui. Ils ont sorti mon fils, donc voilà, enfin, les douleurs se calment. Je sais qu'il va bien parce qu'on me le dit, on me le pose, mais je le regarde à peine. On me le prend parce qu'il est tout blanc, voilà, il faut le resucrer. Et puis là, je sais qu'ils vont vouloir me suturer. Et je vois avec le fil, et à un moment, je leur dis, mais excusez-moi, mais est-ce qu'on peut m'anesthésier, quoi? Et voilà, c'était épuisant. C'était épuisant, pour moi, j'ai pas accouché mon fils, on me l'a pris. Alors, c'était sûrement ce qu'il fallait faire, je sais pas, je cherche pas à accuser qui que ce soit, mais je l'ai hyper mal vécu. J'ai pas pu parler de mon accouchement pendant au moins une année sans pleurer. Ah oui. Puis j'en parlais très souvent, mais bon, t'as l'impression que tu radotes, tu saoules un peu les gens. Donc t'oses pas trop en parler. Puis c'est difficile de, si tu veux, de parler de ta douleur, de ton. T'as l'impression que t'es vraiment la seule à le comprendre en fait. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis rendu compte que non, j'étais pas toute seule et que y a des gens qui me comprenaient et moi je comprenais aussi les gens. Et
oui, il y a plus de 400 commentaires, 400 personnes qui t'ont dit avoir vécu la même chose.
Ouais. Ah ouais, non, je pense que c'est pas quelque chose qui est. Alors après, faut pas. Voilà, j'ai pas envie de faire peur aux mamans qui vont avoir un déclenchement ou qui n'en ont jamais eu, c'est leur premier enfant. Alors c'est vrai que ça fait énormément, 400 commentaires sous un post. Mais c'est vraiment pas représentatif de ce qui se passe non plus dans les maternités. Hein. Il y a beaucoup plus de positifs que de ce que nous, on a vécu. Mais voilà, c'est des choses qui existent. Moi, j'étais partie de la maternité, si tu veux, sans projet de maternité. Pour moi, accoucher, c'était accoucher. Je ne vais pas donner d'indication particulière. Là, c'est un peu différent. Là, je sais... Si on doit me parler déclenchement, je pense que je négocierai tout pour ne pas être déclenchée.
Ouais.
Je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Ça se trouve, je serai entre guillemets obligée pour la santé de mon bébé. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si je peux passer à côté, je passerai à côté, quoi.
Donc toi, tu es infirmière et tu disais qu'à ce moment-là, donc quand tu étais en souffrance,
ouais,
tu as surtout pas dit que tu étais infirmière, non, parce que c'était un peu à double tranchant.
Ouais.
Et j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y en avait pas mal qui disaient comme toi.
Ouais.
Pourquoi?
Ben parce que moi, je sais que quand on est infirmière, quand on est du métier, quand on vient sur des lieux qui ne sont pas les nôtres... on vient, c'est soit on est perçu comme ok, la collègue, donc on se met à son niveau, puis même on, si tu veux, on, pas on est VIP, mais tu vois, on est un peu dans les petits papiers, ou soit on va passer un peu pour la relou du de service qui va regarder tout ce que je fais, ça va être un peu ça. Et du coup, on va pas trop oser venir dans ta chambre pour peur peut-être d'être jugé, je sais pas. Donc voilà, vu qu'on sait pas comment on va être considéré, mais forcément ça va être marqué sur ton dossier, infirmière, ou attention infirmière, attention elle s'y connaît. Tu vois, donc voilà, c'est à double tranchant, donc dans le doute. Et puis j'en voyais pas l'utilité, sincèrement. Quand tu vas quelque part, tu arrives pas en disant bah tiens, moi je suis mécano, moi je suis machin. Bah voilà, là c'est pareil. Je trouvais pas utile de dire que j'étais infirmière. Mais j'aurais dû. j'aurais dû.
Ça aurait changé quoi ?
Bah ça aurait changé que au final, quand la personne disait des choses qui étaient fausses, j'aurais pu lui dire non, je sais que c'est pas vrai, parce que je fais ton métier et je connais, oui. Et c'est pas vrai ce que tu me racontes. Bah ça, je pense qu'elle aurait changé un petit peu de discours. Elle aurait pris plus de pincettes. Alors je serais passée sûrement pour la relou du service. Mais je suis passée pour la relou du service à crier. Donc de toute manière, ça aurait rien changé. J'aurais été l'infirmière relou et puis la patiente relou.
Et justement, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites d'une meilleure façon pour que la femme qui est en train d'accoucher, ou en tout cas qui est en souffrance, puisse être plus prise en considération à ce moment-là ?
L'écoute, tout simplement l'écoute. Être écoutée et te dire oui, je vous comprends. Oui, je sais que vous avez mal. Rien que ça. Hein, rien que ça, de l'écoute. Et après, à côté de ça, de par mon métier, je sais que ce qui manque énormément, c'est du personnel, donc du coup du temps. Donc l'écoute... c'est un peu, voilà, moi j'étais à la place du patient encore une fois, mais avec le recul, je sais qu'elles n'ont pas le temps nécessaire ou qu'elles aimeraient, et c'est très frustrant quand tu es professionnelle de santé comme ça, de ne pas avoir le temps à donner à ton patient pour le rassurer. Après, il n'y a pas besoin de rester une heure dans une chambre, et je pense que ce jour-là, on aurait pu me sortir 2-3 phrases qui m'auraient au moins un petit peu, je pense, fait redescendre ou m'auraient un petit peu plus rassurée.
Comment tu as fait pour avoir de nouveau envie d'être enceinte après cette expérience ?
Eh ben, figure-toi qu'après l'accouchement, alors je me suis dit, de toute façon, ça sera mon dernier, c'est certain. C'est certain, il est hors de question que, voilà, il est, déjà pour aller chez gynéco, enfin, je voulais plus que personne ait accès à cette zone, tu vois. C'était très traumatisant et du coup, voilà. Pour moi, c'était clair et net. De toute façon, je voulais 3 enfants. Point. Et cet accouchement m'avait vraiment... m'avait laissé un goût amer. Et si tu veux, avec le temps, on parlait d'un quatrième. Mais comme ça, c'est plus mon mari qui en a parlé en premier. Moi, je disais que non. Et puis après... alors, c'est pas qu'on oublie. Parce que encore aujourd'hui, j'ai pas oublié. Mais c'est que... Ça me suis dit, j'avais les portes qui étaient plus ou moins, voilà, qui commençaient à s'ouvrir un petit peu en pensant à une éventuelle grossesse. Et puis le fait d'avoir vécu cet accouchement, je pense que je me suis dit, je peux pas rester là-dessus. Tu vois, j'ai pas fait mon deuil de grossesse. Alors je sais que le mot deuil, j'aime pas l'employer parce que pour moi, deuil, ça fait partie de la mort et voilà, j'ai pas vécu. De tragédie. Mais voilà, il fallait que j'ai un accouchement qui clôture. Alors évidemment, c'est pas pour ça qu'on a fait le quatrième, mais voilà, c'était aussi dans ma tête en disant ok, et en plus, je vais pouvoir boucler la boucle. Et voilà. J'ai effectivement eu un accouchement nickel. Au même hôpital, voilà, tous mes enfants sont nés dans les mêmes locaux.
Est-ce que tu as partagé ce souvenir parce que le terme approche et c'est une petite crainte une grosse crainte qui remonte à la surface ?
Ouais, parce que j'ai eu un entretien avec la sage-femme qui m'a donné le papier, le fameux papier, en disant si vous n'avez pas accouché tel jour, vous nous appelez, vous faites des examens et si voilà, vous n'avez pas accouché là, bah, on parlera de déclenchement. Le mot a été lancé, donc moi je lui ai tout expliqué. Elle a noté quand même sur son dossier comme quoi j'ai été traumate. Et elle m'a beaucoup écoutée, elle m'a bien rassurée. Et voilà, non. En fait, si tu veux, j'y pense parce que voilà, les jours arrivent et ça reste dans mes pensées. Mais là, je suis assez sereine.
Et alors, en tant que maman, comment tu as évolué au fil de l'arrivée de tes enfants ?
Beaucoup moins de stress parce que je me pose beaucoup moins de questions. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de questions qui me torturaient, mais qui n'étaient vraiment pas nécessaires d'avoir de réponses. Je vis sereinement, voilà, je prends un peu la vie comme elle vient, au jour le jour, sans prévoir forcément, et ça nous réussit pas mal. Alors, je ne dis pas que je suis comme ça tous les jours, je ne suis pas du tout une maître zen, mais voilà, j'apprends. Alors, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est les maternités ? Je pense qu'il y a un peu de tout. Et voilà, donc je suis plus apaisée dans mes grossesses.
Et au niveau de tout ce qui est portage, parce que tu parles pas mal de ça, portage, allaitement.
Oui. Moi, le portage et l'allaitement, alors l'allaitement, ça a été un peu un parcours du combattant. J'ai essayé depuis ma première grossesse, ça a été des échecs sans nom. La première, la deuxième, la troisième fois, la quatrième fois, gros succès. Voilà, on a arrêté d'allaiter à 22 mois. Quand je suis tombée enceinte. Donc voilà, j'ai été pour moi jusqu'au bout de l'allaitement avec ma fille et ça m'a complètement satisfaite. Le portage, j'ai découvert ça avec mon fils, il a été porté de bébé, de nouveau-né à ses 3 ans quoi. Et puis j'ai réitéré avec ma fille, elle a été portée dès la maternité jusqu'encore maintenant. Bon là c'est un peu plus compliqué à 9 mois de grossesse, mais voilà, elle est toujours portée. Quand elle le souhaite, ça la demande. Et puis bah là, bébé à venir, allaité, porté.
La totale. Et alors, comment ton mari et toi, vous vous organisez au quotidien avec 4 et bientôt 5 enfants ?
Ah bah écoute, notre secret, c'est le partage des tâches. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, alors, sans avoir d'organisation ni de planning, hein, c'est... celui qui est là, il fait. Celui qui est moins fatigué, il fait. Enfin, on fait son... Donc, que ce soit dans les tâches ménagères, lui, il va le faire autant que moi. Pour les enfants, c'est pareil. Alors, lui, il va les emmener le matin à l'école. Moi, je les récupère le soir parce que je suis à la maison. Voilà, donc pour le soir, le coucher, tout ça, ça dépend. C'est papa et maman, ou papa ou maman. On n'a pas de... On se partage les tâches. Vraiment, c'est... Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre.
Et est-ce que les aînés, ils aident
Ouais.
S'occupent des
petits. Alors, oui. Alors, ils aident. Et ils aident et, beaucoup spontanément. Beaucoup spontanément. Après, il ne faut pas oublier que ça reste des enfants. Donc, c'est vrai qu'avec mon aîné, je me suis rendu compte qu'on lui en demandait déjà beaucoup. Et c'est elle qui nous l'a fait remarquer.
Ah, oui.
Ah, ça nous a fait trop mal au cœur. Parce qu'on se rendait absolument pas compte. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse gaffe à ça. Parce qu'effectivement, c'est la plus grande. Mais ça reste une enfant, quoi. Elle a 8 ans et demi.
Oui.
Donc, elle aime bien rendre service. Donc, il faut pas... Voilà. Je pense qu'on en a un peu abusé. Et qu'elle nous dit pas non. Oui. Voilà. Non, non. Donc,
Comment les enfants ont accueilli la nouvelle d'un futur bébé
Ça a été mitigé, ça a été... Alors je pense qu'ils ont d'abord cru que c'était une blague, une mauvaise blague. Et puis quand ils se sont rendus compte que non, maman ne rigolait pas, ça a été... Alors mon aînée était contente, mon garçon était content, Jana, la dernière, pas de réaction particulière. Mais c'est ma deuxième qui a dit, voilà, qui, non mais maman, dis-moi la vérité, c'est une blague là, tu me fais une blague là, c'est pas possible là. Donc ça a été un peu compliqué. Elle nous a dit clairement, je dis mais quelles sont tes peurs ? Elle dit bah tu vas faire que t'occuper de lui. Mmh. Donc en gros tu t'occuperas plus de moi. Donc, voilà. Donc bien travailler là-dessus en disant puis moi aussi il faudra que je fasse attention parce que je lui ai expliqué. Effectivement tu vas penser que je m'occupe plus de lui parce qu'il aura plus besoin. C'est un bébé, il peut pas manger seul, il peut pas boire seul, il peut pas se déplacer. il peut pas, voilà, il y a des choses que toi à 7 ans tu peux faire que lui ne pourra pas faire, donc je vais être beaucoup plus avec lui. Mais ça n'en avait en rien que j'ai fait exactement la même chose avec toi quand tu étais bébé, et que c'est pas pour ça que je l'aimerais plus que toi. Donc voilà, c'est juste faire comprendre ça, que c'est pas parce que j'ai plus de temps avec le bébé que je délaisse les autres. Et puis c'est, voilà, je lui ai bien expliqué qu'elle serait intégrée, elle m'aidera à faire plein de choses. Donc là, elle est plutôt contente.
Tu fais attention justement à ça au quotidien, même hors grossesse, à avoir du temps pour chacun?
Ouais, alors c'est des choses que je m'efforce de faire, mais il y a des fois, de toute façon, ils me le disent. Hein. Enfin, tu vois, tu veux jamais faire ça. Enfin, tu vois, ils commencent déjà à faire des revendications, des choses que tu vois pas forcément. Alors, il y a des choses qui sont légitimes. Il y a d'autres fois, bon, là, c'est un petit peu pour se faire plaindre. Ouais. Mais bon, c'est que derrière, il y a quand même quelque chose, tu vois. Donc, je prends toujours en compte. Mais voilà, discuter, quoi. Je veux pas qu'il y ait un de mes enfants qui pense qu'il est laissé sur le bas-côté parce qu'il y a plus de 10 qui arrivent.
Ouais.
Ça, c'est moche, quoi. Ils peuvent vachement le... Et même s'ils le verbalisent pas, justement, j'en parle quand même parce que je sais que mon aîné, par exemple... C'est pas du genre à dire ça, mais c'est peut-être à le penser. Mmh. Donc, moi, j'aime bien les emmener des fois le dimanche. Je vais dire à mes deux filles ou alors à une, viens avec moi, on va aller boire un chocolat, on va aller se faire un petit goûter.
Ouais, des petits temps privilégiés.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, on te sent très proche de ta petite dernière ces derniers mois.
Ouais.
Comme s'il fallait... faire le plein de câlins avec elle avant l'arrivée.
Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle me colle. Ouais. Vraiment, là, la nuit, elle se réveille, elle vient me voir et il faut qu'elle dorme, le bras autour de mon cou. Elle zappe complètement, elle ne parle pas du bébé. Donc, elle voit tout ce qui se passe, le lit qui est dans la chambre. Donc, je lui explique que c'est pour le bébé. Donc, elle sait qu'il va se passer quelque chose. Je pense qu'elle sait ce qui va se passer. Après, je peux pas en être sûre. Mmh. Mais et je pense qu'elle sent qu'elle va devoir partager sa mère avec plus petit qu'elle. Et là, elle profite. Et je profite aussi de ces moments privilégiés avec elle. Elle devra effectivement partager.
Mmh. Et tu fais du cododo avec elle?
Oui. Alors oui, j'en ai fait depuis la naissance. Donc là, le cododo, c'est plus elle qui le fait que nous, parce qu'elle vient se joindre à nous la nuit.
Elle a sa chambre et elle vient...
Elle a sa chambre, okay. Elle a sa chambre qui est juste à côté de la nôtre, donc la nuit, elle fait pas de bruit, et pop, hop, elle monte, et elle vient.
Oui. Ça va être toute une organisation avec le bébé.
Donc là, avec le bébé, là, j'ai un lit cododo, donc qui est juxtaposé à mon lit. Donc au pire, même si elle monte dans le lit, ça posera aucun problème. Bon, après, l'idéal, c'est qu'elle reste dans sa chambre. Voilà, encore une fois, elle a eu sa part. Non. Mais pareil, c'est pas du tout le moment de lui dire non, ne viens plus me voir, quoi. Absolument pas. Il faut que ça se passe en douceur, il faudrait que ça vienne d'elle, surtout.
Oui. Good luck.
Thank you.
Et on te dit souvent quel courage ou bon courage d'avoir une famille nombreuse. Et toi, c'est quelque chose qui t'insupporte?
Alors non, ça m'insupporte pas parce que je peux comprendre. C'est des choses que c'est un mot que j'ai déjà dit et que je dis encore. C'est dans le langage. Mais en fait, quand j'ai posté ce que je pense que tu fais référence à mon poste, c'est plus que je suis gênée par rapport aux mamans ou futures mamans qui galèrent, tu vois, qui souffrent, qui sont malades, qui ont du mal à avoir des enfants, ou qui ont vécu des tragédies, ou qui ont vécu des maladies, ou qui ont des enfants malades, elles se battent contre quelque chose, pour quelque chose, et je les trouve courageuses. Et si tu veux, quand on me dit moi je suis courageuse, je me dis mais oh, je peux pas, elles sont courageuses, moi je ne suis absolument pas, enfin par rapport à elles. Et en fait c'est ça. Je sais qu'il y a des gens, alors sur Instagram non, mais sur Facebook ça fait un peu un foin en disant non mais attends, bah si elle est courageuse, faut pas qu'elle... En gros ça faisait un petit peu hautaine de dire non me dites pas que je suis courageuse. Je comprends, évidemment. Moi aussi, je le dis, ah bah, courage, quand tu te lèves tôt le matin, ou c'est quelque chose de commun. Mais en fait, ce jour-là, dans mon poste, ce que j'ai voulu dire, c'est que on ne peut pas dire de moi que 5 enfants, c'est courageux. Enfin, tu vois, j'ai même du mal à l'exprimer. Tu vois, je pensais plus aux mères qui avaient des difficultés, qui étaient dans la maladie, et qui devaient se battre tous les jours. Moi, je l'ai. À aucun moment j'ai dû me battre, tu vois. Je tombe enceinte très facilement. Mes enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé. Voilà. Souhaitez pas du courage. Au pire, une bonne nuit de sommeil.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques qui te dérangent? Qu'on te dise, par exemple, que bon, c'est bon maintenant la route, c'est la routine pour toi d'accoucher.
Oui, hein. Oui. En fait, si tu veux, c'est des phrases qui sont lancées comme ça, mais sans arrière-pensée, tu sais, c'est sans vouloir blesser, rien du tout. Mais en fait, c'est le genre de phrases que tu entends très régulièrement. Alors, chaque accouchement est différent, chaque enfant est différent, mais bon, tu as l'impression que tu fais un peu de la chaîne et que, bah, aller accoucher, ça va, tu connais l'accouchement, tu sais comment ça va se passer. De toute façon, tu vois, hein, les gens sont beaucoup moins autour de toi pendant la 5e grossesse, tu vois. Mmh. Oh, première grossesse, c'est oh là là, c'est un petit écrin, tout le monde te prend des nouvelles. Deuxième, bon. Troisième, oh, tu vois un petit peu le désert arriver. Quatrième, bon, le cinquième, on t'appellera à l'accouchement, hein, tu me diras ce que c'est. Mais vraiment, hein, c'est là, pour le coup, cette grossesse, je l'ai vécue un petit peu à part. J'étais, bah, y a mon mari, il y a ma famille, mais alors le reste, c'est... Je pense qu'ils viendront à l'accouchement, juste pour voir ce qui va sortir d'ici, si c'est un garçon ou une fille. Mais... Et puis après, oui, il y a les petites phrases, mais bon, pareil, on va me demander souvent si c'est le même père.
Ah, ouais. Ah oui.
Ah oui. Ah oui. Souvent si c'est le même père... La question après... Mais pareil, c'est des questions... Alors, pas celle-là, hein, mais après, il y a des questions que moi-même, j'ai déjà posées, mais savoir si c'était pas un accident. Mmh. Pas le mot accident, mais bon, est-ce que c'était une grossesse désirée? Voilà, c'est des petits trucs qui reviennent souvent. Alors, c'est pas... Non, ça m'insupporte pas. Je vais pas te dire ça, c'est pas vrai.
Il y a aussi de chouettes remarques. Je lisais que tu donnais aussi envie à plein de femmes d'agrandir leur famille.
Oui. Ah, je trouve ça super chouette. Franchement, mais... ouais, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau et c'est vrai que je reçois aussi des messages en me disant, voilà, j'aimerais bien avoir un autre enfant, mais je sais pas trop. Alors, moi, c'est jamais moi qui vais leur dire, oh, si, vas-y, lance-toi. Non, si t'as envie d'avoir un enfant, si ton mari est prêt à avoir un enfant, si... qu'est-ce qui t'en empêche? Voilà, après, s'ils énumèrent, et après, bah, et c'est eux qui prennent évidemment leur décision. Mais ça me fait rire que... Enfin, ça me fait rire, non. Ça me fait plaisir et ça me touche qu'on vienne me voir en me demandant, voilà, conseils, comment je vis. J'ai l'impression qu'en plus, il faut que je fasse attention parce que si j'embellis trop les choses, ils vont dire, oh, si, allez, on y va. Mais si... tu vois, tu te dis, attends, t'as la responsabilité, quoi. Non, ça fait plaisir, effectivement. Ouais, j'ai quand même beaucoup de messages en disant, bah écoute, on s'est lancé dans un deuxième enfant, t'es pas étrangère, oh, ça me fait plaisir. Ouais.
On parlait de sérénité tout à l'heure, et donc un peu de la vraie vie. Mm-hmm. Entre nous, sans filtre, mm-hmm. Kelly Jenner, c'est quoi l'ambiance à la maison?
L'ambiance à la maison, tu entends ce silence? Ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas, d'accord? C'est... Tu fais une croix sur le silence, c'est un joyeux bordel, hein? C'est des cris, c'est des rires, c'est des pleurs, c'est un peu de tout, c'est des enfants qui vivent beaucoup, ça chamaille. Voilà, on n'est pas dans un monastère ici. Hein. Donc, non, mais c'est ça en fait. Mais si tu veux, quand je pense à famille nombreuse, c'est exactement ça que je pense. Une famille qui vit, qui fait du bruit. Voilà, il faut faire une croix sur le silence.
Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman parisienne, alors, même si je ne suis pas parisienne pure souche, mon mari, lui, l'est, j'ai réussi à l'embarquer un petit peu dans la campagne. C'est une maman qui reste active et assez et libre avec ses enfants.
Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré ?
Il y a un salon de thé que j'aime beaucoup, qui est kids-friendly, qui s'appelle Une mère, une fille, et qui est très sympa, et je le recommande.
Et quels sont les projets pour toi et ceux prévus en famille ? D'accouchement, j'imagine.
Ah oui, alors tu imagines bien. Oui, l'accouchement, effectivement. Très, très proche. Ouais, l'accouchement. Et puis des vacances. Hein. Je vais te dire des vacances. Partir tous ensemble. Tous ensemble, au soleil, à la mer.
Merci beaucoup, Charlotte.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Charlotte, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 18 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.